RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire aujourd'hui et mon Indonésie. Lors du suivant, vous allez écouter Magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons également présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Voici les nouvelles. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Indonésie-Singapour doit se rencontrer lors de la réunion annuelle du FMI et du GBM. 18 pays et 2 organisations internationales sont prêtes à donner les assistances à Sulawesi Central. Inalum exporte de l'aluminium primaire sur le marché mondial. L'Indonésie gagne beaucoup de médailles à l'Olympiade chinoise de mathématiques. Voici le bulletin complet. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, et le premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, tiendront la troisième réunion annuelle en marge de la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la réunion annuelle de la Banque mondiale ou réunion annuelle du Fonds monétaire international, groupe de la Banque mondiale, IMF-WBG, à Nusa Dua, Bali. Les deux dirigeants du pays rencontreront le 11 octobre, avant le début du rassemblement des dirigeants de l'ASEAN, qui s'est également tenu le même jour. À cette occasion, les deux chefs d'État vont signer un accord relatif à la promotion de la protection des investissements entre l'Indonésie et Singapour. À l'avenir, l'accord servira de modèle pour renforcer les investissements entre l'Indonésie et les autres pays amis. Cela a été expliqué par le directeur de l'Asie du Sud-Est du ministère indonésien des Affaires étrangères, Denny Abdi, dans le communiqué de presse à Jakarta, jeudi 4 octobre. Nous encourageons également la coopération en matière d'investissement entre l'Indonésie et Singapour lorsque les deux chefs d'État signeront la promotion de la protection des investissements entre l'Indonésie et Singapour. Depuis 2014, le gouvernement indonésien a examiné l'accord de traité bilatéral d'investissement entre l'Indonésie et les pays amis. Ce qui sera signé avec Singapour est le premier traité d'investissement bilatéral signé par l'Indonésie avec un pays ami. On souhaite qu'à l'avenir, il puisse devenir le modèle pour renforcer les investissements entre l'Indonésie et les pays amis. Denny a déclaré qu'en plus de se concentrer sur le renforcement de la coopération dans l'investissement entre l'Indonésie et Singapour, la réunion entre le président Jokowi et le premier ministre Lee Hsien Loong discuterait également le renforcement de la coopération de formation et d'éducation. Les formes de coopération comprennent, entre autres, la création polytechnique adoptant le système d'éducation et le programme d'enseignement de Singapour. L'une des écoles polytechniques a été créée au parc industriel de Kendal, au centre de Java, et se concentre sur l'industrie du meuble. À l'avenir, selon Denis, des écoles polytechniques similaires seront établies dans quelques régions indonésiennes avec des priorités différentes dans chaque région. Le gouvernement indonésien enverra également des étudiants pour suivre une formation et un enseignement dans plusieurs établissements d'enseignement à Singapour. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que 18 pays et 2 organisations internationales s'étaient engagés à fournir une assistance au gouvernement indonésien pour les victimes du séisme et du tsunami qui a secoué les régions de Palu, Donggala, Sigi et Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Arman Atanasir, lors d'une conférence de presse à Jakarta jeudi, a expliqué que l'assistance était conforme à 6 types d'assistance internationale précédemment déterminés par le groupe de travail national HGU, entre autres l'avion Hercules C-130 ou similaire, tentes, hôpitaux de campagne, fumigation, générateurs et traitement de l'eau potable. Pour les autres types d'assistance, ce qui sera fourni sous forme d'assistance financière sera géré par l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, et la Croix-Rouge indonésienne, PMI. Il n'est pas directement distribué comme les 6 types d'assistance mentionnés précédemment.
Tadi terkait dengan negara yang bersedia membantu, itu tidak termasuk negara-negara yang menyatakan komitmen.
Il s'agissait d'un pays qui est prêt à donner son aide. Cela n'incluait pas les pays qui s'étaient engagés à fournir une assistance financière. Il y a donc beaucoup de pays qui indiquent qu'ils sont prêts à fournir une assistance financière, y compris 18 pays que j'ai mentionnés. Eh bien, pour l'assistance financière, le mécanisme a été dit par le groupe de travail national que si l'aide financière provient du gouvernement, elle sera réglementée par BNPB. Si l'assistance provient d'une organisation internationale ou d'une ONG, elle sera gérée par PMI, la Croix-Rouge indonésienne. Armanata n'a pas indiqué quel pays était disposé à fournir une telle assistance, car les données pouvaient encore changer à tout moment. À la même occasion, Armanata a expliqué l'assistance d'aéronefs de plusieurs pays. 20 aéronefs de 11 pays ont reçu une autorisation de vol, mais ils ne peuvent pas atterrir simultanément. Le gouvernement indonésien interdit encore aux avions commerciaux d'entrer à Palu. Armanata a également déclaré que sa partie avait reçu des informations que l'Inde, Singapour et la Malaisie avaient fourni une assistance d'avion qui avait atterri à l'aéroport Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan à Balikpapan dans le Kalimantan oriental. PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum Persero, en tant que seul producteur d'aluminium primaire en Indonésie, continue de progresser dans la réalisation de sa vision comme société mondiale de l'aluminium. L'une des mesures concrètes prises est à exporter vers la Malaisie. Inalum à Kuala Tanjung, Sumatra Nord, Indonésie, a exporté 20 000 tonnes de lingots d'aluminium vers Trafigura au port Klang en Malaisie. La libération des produits d'exportation est effectuée au port d'Inalum à Kuala Tanjung, assisté par le président directeur de PT Inalum Persero, Budi Sadikin. Comme dans son communiqué de presse cité par Republika mercredi 3 octobre, Budi Sadikin a déclaré que l'exportation des lingots d'aluminium vers la Malaisie serait une étape concrète pour faire l'Inalum comme société mondiale célèbre. Les exportations d'Inalum, en particulier les lingots d'aluminium, devraient atteindre cette année 40 kg avec une valeur de 79 millions de dollars américains, avec pour objectif l'exportation vers le Japon, la Suisse, Singapour, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Corée du Sud, Hong Kong, la Malaisie et les Pays-Bas. L'équipe indonésienne a gagné beaucoup de médailles à l'Olympiade internationale de mathématiques et de sciences, ou IMSO, dans la province de Zhejiang en Chine. La compétition qui s'est déroulée du 28 septembre au 4 octobre au parc éducatif de Hailiang a été suivie par 500 élèves d'école élémentaire de 20 pays, y compris l'Indonésie et la Chine comme hôte. Antara a rapporté à Jakarta jeudi 4 octobre que l'Indonésie avait envoyé deux équipes du ministère de l'Éducation et de la Culture et de la Clinique d'enseignement des mathématiques et des sciences naturelles à la 15e session de l'IMSO. Dans cette activité, l'équipe du ministère de l'Éducation et de la Culture a remporté 2 médailles d'or, 13 médailles d'argent et 8 médailles de bronze. Pendant ce temps, l'équipe de clinique de mathématiques et de sciences naturelles a reçu 2 médailles d'or, 2 d'argent et 8 de bronze. Outre la médaille d'or, des élèves d'école primaire de plusieurs villes d'Indonésie ont également remporté la catégorie « La meilleure équipe de spectacle d'art » pour leur performance de danser la danse Saman pendant la session de la Nuit de la Culture. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de la Tunisie, Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le nouveau leadership en Irak. L'Irak a organisé les premières élections législatives en mai de cette année. Les résultats des élections n'ont pas été annoncés immédiatement en raison des différends entre les participants des élections générales. Ce sont les premières élections en Irak, car ISIS qui contrôle l'Irak peut être battu. Aucun de ces résultats électoraux ne faisait d'un parti avec la majorité absolue, ou 329 sièges au Parlement. Le groupe d'Ulema de Chiite Moqtada al-Sadr a remporté 54 sièges au Parlement. Le groupe de Chiite soutenu par l'Iran a remporté 47 sièges et le groupe d'alliance de l'ancien premier ministre Haider al-Abadi peut remporter 42 sièges. Le reste est occupé par d'autres groupes, y compris les partis kurdes. Conformément aux conventions conclues depuis l'intervention des États-Unis dans la question irakienne, le président sera dirigé par les Kurdes, le premier ministre par les chiites et le président du Parlement par les sunnites. Mais l'absence d'accord sur qui est le représentant kurde qui devient président fait que les deux partis kurdes, à savoir le Parti démocratique du Kurdistan et l'Union patriotique du Kurdistan, au Parlement proposent leurs candidats respectifs. Le vote est fait pour déterminer qui est le président de l'Irak. Le résultat, Barham Salih, ancien politicien qui avait été vice-premier ministre, a obtenu 219 voix contre 22 voix obtenues par Fouad Hussein. Salih a 15 jours pour nommer un premier ministre. Au lieu de passer 2 semaines, Salih a rapidement décidé de nommer un politicien senior chiite, Adel Abdul Mahdi, en tant que premier ministre qui dispose de 30 jours pour former un gouvernement. Bien que personne ne soit majoritaire au Parlement et qu'il y ait des défis dans la formation d'un gouvernement, il s'agit d'une bonne nouvelle pour le renforcement de la démocratie en Irak. Nous n'attendons plus de division dans le pays 2001 nuits en raison de la lourde tâche attend n'importe quelle personne qui est le leader de l'Irak. Reconstruire l'Irak qui a été détruit par la guerre nécessite le travail dur de toutes les parties. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 5 octobre. Le 5 octobre 1945, l'Agence de la sécurité du peuple a été remplacée par l'Armée de la sécurité du peuple, qui a été le précurseur de l'Armée nationale de l'Indonésie. L'Agence de sécurité du peuple, BKR, a été la première force armée formée après l'indépendance de la Tunisie. La création du BKR a été réalisée lors de la séance du comité préparatoire pour l'indépendance de la Tunisie, PPKI, le 22 août 1945 et annoncée par le président Sukarno le 23 août 1945. Les membres du BKR à cette époque étaient des jeunes Indonésiens ayant reçu une formation militaire en tant que soldats du Heiho, défenseurs de la patrie, PETA, CNIL et autres. Aruji Kartavinata a été nommé commandant du BKR. Par décret présidentiel du 5 octobre 1945, le BKR a été remplacé par l'Armée de la sécurité du peuple, TKR. Au cours de son développement, le nom des forces armées indonésiennes a subi plusieurs changements de nom avant de devenir l'Armée nationale de l'Indonésie, TNI. Le 5 octobre 2004, Sulawesi Ouest est officiellement devenue une province de la République d'Indonésie avec la capitale Mamoudzou. Sulawesi Ouest est une province résultat de l'expansion de la province Sulawesi Sud. La province étant créée le 5 octobre 2004 et fondée sur la loi numéro 26 de l'an 2004. La capitale est Mamoudzou. Sulawesi Ouest est connu pour ses nombreux sites touristiques. Outre le cacao, cette région produit également du café robusta et arabica, de la noix de coco et du girofle. Dans le secteur minier, l'or, le charbon et le pétrole sont contenus. Le 5 octobre, la Journée mondiale des enseignants. La Journée mondiale des enseignants est commémorée tous les 5 octobre depuis 1994. Le but est de fournir un soutien aux enseignants du monde entier et de les convaincre que la continuation des générations futures est déterminée par l'enseignant. Selon l'UNESCO, la Journée mondiale des enseignants représente une préoccupation, une compréhension et une appréciation manifestée pour le rôle vital de l'enseignant, qui est l'enseignement de la science et la construction de générations. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serge Jutor, nous continuons notre programme avec mon Indonésie et pour le titre Le ministère de l'Industrie optimise que l'Indonésie peut être l'orientation mondiale de la mode musulmane. Le ministère de l'Industrie organise actuellement une exposition sur la mode musulmane, à savoir l'exposition internationale de la mode musulmane, ou IMFE, qui s'est tenue du 1er au 6 octobre 2018 à Plaza Industrial du ministère de l'Industrie à Jakarta. Le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, a déclaré lundi, lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition à Jakarta, que l'IMFE était un effort concret qui est mis en œuvre par le ministère de l'Industrie pour faire l'Indonésie comme orientation de la mode musulmane dans le monde en 2020. Le ministre Erlangga a déclaré que l'Indonésie avait les grandes possibilités pour devenir l'orientation mondiale de la mode musulmane, comme tenant l'Indonésie est l'un des pays avec la plus grande population musulmane dans le monde. L'économie islamique mondiale a prévu que la croissance du marché mondial de la mode musulmane atteindra 327 milliards de dollars américains en 2020. L'Indonésie est également l'un des cinq principaux membres de l'Organisation de la coopération islamique comme plus grand exportateur des produits de la mode musulmane dans le monde, outre le Bangladesh, la Turquie, le Maroc et le Pakistan. En 2017, le Bangladesh, en tant que membre de l'Organisation de la coopération islamique, a exporté plus de produits de la mode musulmane d'un montant de 33,73 milliards de dollars, suivi de la Turquie pour la deuxième position avec 12,76 milliards de dollars et l'Indonésie pour le troisième avec une valeur de 12,23 milliards de dollars américains. Le ministre Erlangga a expliqué que le marché des produits de la mode musulmane était en train de se diversifier en ligne avec le nombre croissant de populations musulmanes indonésiennes et mondiales. Par ailleurs, le directeur général des petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie, Gati Wibawaningsi, a ajouté que l'IMFE est organisé par la collaboration du ministère de l'Industrie et des concepteurs regroupés dans l'équipe du projet de mode modeste MOFP. Il a déclaré que l'exposition visait à promouvoir la vision de faire l'Indonésie comme orientation mondiale de la mode musulmane en 2020. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine Cultura. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct à www.voynews.id. Aujourd'hui, je vous invite à une visite culinaire dans la ville de Probolinggo, Java de l'Est, pour goûter le ketan keratok. Restez donc avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Les auditeurs, il existe diverses attractions intéressantes à la ville de Probolinggo, la province de Java de l'Est, que vous pourrez apprécier. Comme le parc de tourisme d'études de l'environnement, le port de Tanjung Tembaga, la place de la ville de Probolinggo et le parc de Manula. Après une visite de ces objets touristiques, vous pourrez continuer votre voyage en goûtant à la cuisine typique de Probolinggo. L'une des spécialités culinaires que vous pouvez goûter est le ketan keraton. Le Le ketan kratok est un riz collin cuit avec un mélange de noix de cara qui s'appelle kratok à Madura. Le ketan kratok est servi avec une pincée de noix de coco râpée et saupoudrée de sucre brun. Toutefois, les éclaboussures de sucre brun dépendent de vos goûts car il y a parfois des gens qui ne veulent pas ajouter de sucre brun sur le riz gluant et certains demandent du riz gluant saupoudré de sel. Quand vous le mangez, le goût du riz gluant se marie au kratok savoureux et ensuite, lorsque vous ajoutez une touche de sucre brun, une douceur savoureuse apparaîtra sur votre langue. Une combinaison de saveurs salées et de sucré de ketan kratok ajoute à cette délicatesse culinaire. Les auditeurs, pour cuisiner le ketan kratok, faites bouillir les noix de cara ou le kratok avant de le faire bouillir. Après le bouillition, soulevez le brièvement de cheminée, puis faites bouillir à nouveau 5 fois. Après la cuisson 6 fois, cuire à la vapeur le kratok et mélanger avec du riz gluant. Faites cuire le riz gluant qui a été mélangé au kratok en utilisant le cheminée et le bois de chauffage comme combustible pour que le ketan kratok soit plus délicieux. Le processus de cuisson jusqu'à 6 fois vise à éviter une mauvaise cuisson. Si nous cuisons mal, le ketan kratok peut provoquer des maux de tête. Les auditeurs, vous pouvez acheter le ketan kratok dans les étals de ketan kratok à Probolinggo, mais pour le goûter, vous ne pouvez l'acheter que le matin, entre 4 et 10 heures du matin. Car c'est un repas typique du matin des habitants de Probolinggo. Pour que soit plus délicieux, profitez du ketan kratok avec un verre de café ou de thé. Une assiette de ketan kratok coûte environ 5000 roupies. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine culturel sur le ketan kratok. On va se retrouver demain avec des autres sujets intéressants.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre le 73e anniversaire des Forces armées nationales indonésiennes. Alors restez à l'écoute avec nous sur www.voynews.id. Le 5 octobre est célébré comme l'anniversaire des Forces armées nationales indonésiennes ou TNI. Le 5 octobre 2018, TNI est entré dans l'âge de 73 ans. Le commandant en chef de TNI, le maréchal de TNI Hadi Cahyanto, a affirmé que la commémoration du 73e anniversaire de la TNI avait lieu dans toutes les villes de Sabang à Merauke. À Jakarta, l'exposition du principal système d'armement de TNI ou exposition Alutsista s'est tenue au Monument National de Jakarta du 27 au 29 septembre 2018. Alutsista présentée comprenait des chars Anoa, Komodo et Léopard. Chaque année, l'exposition de l'autiste à Monas attire l'attention des gens qui veulent voir directement ou prendre des photos avec du matériel de défense. Pas seulement à Jakarta, à l'occasion du 73e anniversaire de la TNI, à Kodam 4 Diponegoro se tiendra une exposition à l'autiste sur la base aérienne de l'armée Ahmad Yani à Semarang. Le colonel ARH Zainuddin, responsable de l'information sur la région militaire 4 Diponegoro, a indiqué que cette activité avait eu lieu du 5 au 7 octobre 2018. L'ouverture de l'exposition a eu lieu après la cérémonie à la base aérienne Ahmad Yani le 5 octobre. Lors de l'exposition, à l'autiste de l'armée de terre, de la mer et de l'air, où les hélicoptères Apache seront le centre des préoccupations, cet événement présentera également des démonstrations d'arts martiaux, des danses et des performances artistiques de TNI Yong Mudo. En commémoration du 73e anniversaire de TNI, TNI a organisé le Marathon international des forces armées indonésiennes 2018 qui se tiendra sur la plage de Kuta dans le Mandalika à Bali. Le concours de course à pied tenu le 23 septembre 2008 a un prix total de 10 milliards rupiah. Après Lembang, le drapeau du patrimoine rouge blanc a été défilé autour de la ville samedi le 29 septembre 2018. La procession était une série d'activités de relais de drapeau accueillant l'anniversaire de TNI. La série de relais de drapeau est réalisée dans un relais impliquant du personnel de TNI, Polri et des éléments de la communauté. Après Palembang, le défilé passera par plusieurs autres grandes villes telles que Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Manado, Kupang, Ambon, Sorong et se terminera à Merauke. Serviteurs, c'est à l'Indonésie en cours pour ce soir sur la commémoration du 73e anniversaire de TNI. Nous nous retrouvons demain avec d'autres sujets plus intéressants. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Java de l'Ouest, qui est également connue comme les chansons sundanaises. Presque tous les habitants de Java de l'Ouest utilisent et comprennent les sundanais. Cette langue régionale est utilisée dans divers aspects de la vie, y compris dans ses chansons. Pour ouvrir l'édition d'aujourd'hui, écoutons une chanson intitulée Sagara Cinta, présentée par Tuti Mariati. Restez avec nous à www.voynews.id, à 3,5 kHz ou à l'application de RRI Play sur votre téléphone portable.
Nadi mana panutanu di pimelang Iraha urang patepang deui Na iraha jeung di mana Ah kamana impaikeun salam ka kasa Nadi mana
jemparing pamentang ras harapan nu urang luaan sejati ingin salamina jeung satujuan
pangrasa ombak laut samudra tersarungkan bagai sagara cinta. Panglipur hati
Voilà la chanson sundanaise de Tuti Mariati, intitulée Sagara Cinta, ou en sundanaise signifie l'océan de l'amour. Bien que Tuti Mariati vienne de la région de Sulawesi du Sud, elle parlait bien le sundanais car elle avait passé son adolescence à la ville de Bandung, Java de l'Ouest. Non seulement chanter des chansons de Kroncong, mais elle peut aussi bien interpréter des chansons sundanaises. Sa voix mélodieuse et douce est parfaite à chanter des chansons sundanaises. En plus de chanter activement dans le pays, elle a souvent participé à des missions culturelles dans divers pays. Les auditeurs, nous allons écouter une chanson intitulée « Midua Cinta » qui signifie « tricher ». Cette chanson raconte de quelqu'un qui a rompu et les sentiments d'amour et d'affection sont maintenant perdus. Son amour est parti. La main a triché. Les auditeurs, voici la chanson intitulée « Midua Cinta » de Mary Andani.
«
Les auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Mary Andani dont le titre est Mi Dua Cinta. Mary Andani est une chanteuse indonésienne qui interprétait des chansons de dangdut. La femme née à Bandung, Java de l'Ouest, a commencé à être connue dans le divertissement de la musique indonésienne avec sa chanson intitulée Dinding Pemisah qui était populaire en 1990. Pas étonnant qu'elle soit capable de chanter les chansons sundanaises. Les auditeurs, c'est tout le magazine musical d'aujourd'hui. Pour la terminer, je vous donne deux chansons intitulées Bimbang par Tuti Mariati et Nenggelis chantée par Fika. Voici les deux chansons, bonne écoute et à la prochaine.
Yeah.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/FRENCH ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/FRENCH.
Kumaha ta, aduh ngajepur
menginten
asa datik tu kap pentang bana asmara
sikat nak sikat nak tarik nak kawas emut nak
nanti kepirana siawangi
tapi emut tapi emut lapas patari mepana
tapi emut tapi bakti emot
lapas patari matana
bakti emot bakti emot
kesono diajar
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Merci d'être fidèle à La Voix de l'Indonésie et c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOI INDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.